Acte chapitre 2, verset 24, au commencer. Pierre qui venait de dire au verset 3, à la foule réunie, cet homme, en parlant de Jésus de Nazareth, on s'en rappelle, on en a parlé, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, hein? Il les pointe du doigt. Il les met au banc des accusés. Vous l'avez crucifié, hein? Il les regarde au blanc des yeux et il leur dit la vérité de l'évangile. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est ce qu'il leur dit au verset 23 de Actes chapitre 2. Vous vous rappelez le contexte, c'est quand il leur expliquait ce qui s'est passé dans la chambre haute, quand à l'effusion de l'esprit, les gens se sont mis, les 120 hommes et femmes de Dieu qui étaient là, qui étaient, qui avaient reçu le don de l'esprit, se sont mis à parler en diverses langues. Hein? On se rappelle le contexte, c'est dans ce contexte qu'il leur a dit ce qu'il dit. Au verset 23. Ainsi, il enchaîne au verset 24 en disant, Dieu l'a ressuscité des morts. Hein? Il l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et à Pierre de poursuivre en leur disant, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût, en parlant du Christ, retenu par elle. Hein? Il n'était pas possible que le Fils de Dieu soit retenu par la mort. Pourquoi il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort ou par les liens de la mort? Eh bien, d'abord parce que Dieu, hein, Dieu a la puissance nécessaire pour ressusciter qui que ce soit, y compris, hein, et avant tout, son fils bien-aimé. C'est la première raison. La puissance de Dieu explique que la mort ne pouvait pas retenir Jésus, le Seigneur, d'entre les liens de la mort. Hein? Il est la résurrection et la vie. Hein? Il est la résurrection et il est la vie. Alors, c'est pourquoi il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Il est la vie. Et le Fils de Dieu est mort afin que par la mort, il rende impuissant, hein, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne veut laisser aucun doute planer sur de qui il parle. Il dit le diable, c'est-à-dire le diable. Alors, s'il est mort afin qu'il rende impuissant le diable qui possède la puissance de la mort, alors il était impossible que lui-même fût ou soit retenu par la mort. C'est une question de logique. Hein? Et il est très important de comprendre cela. Il y a une autre raison pour laquelle le Fils de Dieu ne pouvait pas être retenu par la mort. On trouve, c'est une question comment on pouvait dire, il y va de la crédibilité du Fils de Dieu. Il y va de sa crédibilité. Il y va de la crédibilité de Dieu le Père. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu le Père a promis de le ressusciter. Hein? Et Dieu le Fils lui-même a annoncé qu'il ressusciterait. Donc, c'est une deuxième raison en plus de la puissance de Dieu. Qui est plus grand, qui est plus grande que tout, et qui est plus grande que tous, mais il y a aussi une question de véracité de la parole de Dieu. Hein? Et c'est de ça, c'est ce que Pierre a en tête quand il dit qu'il était impossible. Il y a un million de raisons pour lesquelles il était impossible que la mort retienne le Fils de Dieu. Hein? Jean, non, non. Et a déjà rapporté aux gens qui ont demandé à Jésus, aux Juifs, hein, qui ont demandé à Jésus, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Hein? Il n'arrêtait pas de faire des miracles, il n'arrêtait pas de dire que il est le Fils de Dieu. Alors, ils lui ont demandé quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte, surtout dans le temple. Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relève. Et là, les Juifs étaient étonnés. Hein, et en disant, et il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Si vous lisez le passage, Jean 2, versets 18 à 22, vous allez voir la présence du point d'exclamation à la fin. Et il s'étonne. C'est comme pour dire, waouh, ce gars-là, comment, pour qui il se prend? Et il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Alors, on voit l'étonnement, on voit la surprise qu'ils ont devant l'affirmation de l'autorité du Seigneur. Et Jean de rajouter, il parlait du temple de son corps. Hein? Jean rajoute, il parlait du temple de son corps. Et Jean dira, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite, c'est-à-dire et d'utiliser ce temple et je le bâtirai, je le relèverai en 3 jours. Alors, en raison des situations comme ça, des promesses comme ça, des affirmations comme ça, alors il était impossible que la mort retienne le Seigneur, puisque s'il était retenu par la mort, alors ses affirmations seraient infirmées, ses promesses ne seraient pas réalisées. Le Christ a dit aux disciples, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Alors voilà. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, la mort ne pouvait pas le retenir pour ces raisons-là. Il y a une troisième raison pour laquelle la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Hein? Hein? Parce que Dieu a prévu que son peuple, on va dire l'Église, serait avec lui pour toute l'éternité. Hein? Le dessein de Dieu veut que l'Église soit avec son Seigneur pour l'éternité, dans la félicité éternelle. Alors, si le dessein de Dieu, c'est ce que Dieu veut de toute éternité, alors un événement comme la mort ne saurait garder le Fils de Dieu et prisonnier, puisque si la mort le garde prisonnier, ben le dessein de Dieu ne s'accomplirait pas. Hein? Tantôt on parlait de promesse, mais il y a promesse, il y a dessein. Il y a promesse, il y a dessein. C'est deux bagages différents. Alors, faut te ressusciter pour que promesse, bon Dieu, pour la véracité de la parole de Dieu t'ait démontré, t'ait affirmé. Faut te ressusciter parce que Dieu est tout-puissant. Hein? Faut le ressusciter parce que c'est lui qui est donné par Dieu pour vaincre celui qui a la puissance de la mort, en l'occurrence Satan le diable, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et quatrièmement, faut le ressusciter parce que le dessein de Dieu s'accomplit par sa résurrection. Et un des aspects du dessein de Dieu, c'est que l'Église règne avec son Seigneur dans l'éternité bénie. Alors, voyez-vous. Mais il y a d'autres raisons encore. Pierre pense à d'autres choses encore quand il dit Je l'ai ressuscité des morts parce qu'il n'était pas possible. Voyez-vous, c'est important. C'est péremptoire. Parce qu'il n'était pas possible. Et d'ailleurs, on comprend donc que autant il n'était pas possible que la mort retienne le Fils de Dieu, autant il n'est pas possible que la mort te retienne, toi. Mais j'espère vous faire lien pour contrôle là, parce que vous êtes tous des prédicateurs, des prédicatrices, là, rendus avant un certain temps dans l'Évangile. Vous espérez vous réaliser à quel point c'est tout aussi vrai que il n'est pas possible que tu ne sois pas ressuscité pour la vie éternelle au dernier jour. Je vous ai dit, vous êtes co-héritiers du Christ. Tout ce qu'il hérite, vous l'héritiez vous aussi. Hein? N'oubliez pas, vous êtes héritiers de Dieu en Jésus-Christ et vous êtes co-héritiers du Christ. Donc, toutes les promesses que Dieu a faites à Christ, il fait au même tout. Hein? Ah! Et ça veut dire, j'ai déjà enseigné ça dans la congrégation. Tout ce qu'il a, vous l'avez. Ah, soit vous l'avez là, ou vous l'avez en espérance, l'un ou l'autre. Ah, pas oublier ça, voyez-vous. Alors, c'est important. Les enfants de Dieu doivent passer par là pour aller atteindre la cité éternelle. Il y en a à l'enlèvement de l'Église qui dit qu'ils ne passons pas nécessairement par là. Mais en règle générale, ils passent tous par la mort. Alors, si lui, il est ressuscité, vous aussi, vous le serez. Au verset 25 maintenant. Donc, voilà pour Actes chapitre 2, verset 24. Verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Hein? Car il y a un argument là, une explication, une raison. Quand David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Je vous ai dit que David fait référence ici, et que Pierre fait référence ici, en citant David, il fait référence au psaume 16, en ces versets 8 à 11 en particulier. Hein? Donc, n'oubliez pas cela. Et ici, Pierre est en train d'expliquer à ses auditeurs, hein, aux gens qui l'écoutaient, à la foule, et il est en train de leur dire que la résurrection du Seigneur fait partie, hein, du plan de Dieu pour le Seigneur, pour son Fils, pour le Messie, pour le Christ, pour loin de l'Éternel. Hein? Et David et a écrit ce passage, et je vous ai déjà dit, j'ai même prêché à Pâques sur un passage, sur ce passage, mais je n'avais pas la grâce d'entrer dans tous ces détails dans lesquels je rentre en ce moment, voyez-vous, mais on en a parlé, vous et moi. Et David a écrit ce passage, je vous ai dit que c'est un passage prophétique, hein? Ça prophétise sur la vie du Messie. David était prophète à l'occasion, hein? Pas juste David. Beaucoup d'autres hommes de Dieu étaient prophètes à l'occasion et pas prophètes à temps plein et au sens de la prophétie de Jérémie ou d'Ézéchiel ou de Daniel. Mais ces grands hommes de Dieu-là, Moïse, Aaron ou David ou d'autres encore, ils étaient prophètes en leurs heures, pas à temps plein comme Élisée, comme Élie. Mais oui, ils étaient prophètes. Il y a beaucoup de psaumes prophétiques. Il y a beaucoup de paroles prophétiques. Un psaume, dans son ensemble, peut ne pas être prophétique, puis il y a deux, trois versets là-dedans qui sont prophétiques. Hein. On y arrivera si Dieu veut. Si le Seigneur nous protège, on verra ça en détail. Mais en attendant, sachez que David, dans le psaume 16, prophétisait la vie du Messie. Il parle de la confiance en Dieu, que le Messie a démontré lorsqu'il regarde la croix. Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Hein? Nous avons ici une parole de confiance. Voir le Seigneur constamment devant soi. Mais c'est une parole de confiance, de foi. Hein? Jésus a fixé les regards de Dieu, quelles que soient les épreuves. On en parlait la fois passée, dimanche dernier, cela dit. Il fixa du regard Dieu le Père dans ses épreuves, du tréfonds de ses épreuves, du gouffre de ses épreuves. Et il fixe les regards de Dieu le Père. Hein? Je voyais constamment le Seigneur devant moi. David qui parle, mais il parle au nom du Messie. C'est le Messie qui parle. David rapporte ses paroles parce que c'est cette attitude que le Messie va afficher à la croix même du sacrifice. Il savait que parce que Dieu était à sa droite, eh bien, il ne serait pas ébranlé. Du fond de la mort, hein, Dieu le Père pouvait l'extirper, pouvait le retirer, le chercher, le ressusciter, gloire à Dieu. Hein. Je voyais, il y a le Seigneur à ma droite. Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, gloire à Dieu. Avant que je ne sois, afin que je ne sois point ébranlé. Gloire à notre Dieu. Hein? J'ai déjà dit dans la congrégation que la droite de Dieu symbolise la protection de Dieu. Et dans la vraie vie, c'est la même chose. La droite d'un chef symbolise la protection du chef. En matière de protocole, c'est comme ça. Hein? Madame Mou à ta droite. Hein? Marie mettait Madame à droite dans des cérémonies importantes, dans des cérémonies protocolaires. Le jour du mariage, mais voilà, les fiancés qui s'apprêtent à se dire oui, à unir leur destinée, mais il y a les parents qui connaissent que mais la fille est à la droite du gars. Ouais, donc c'est important, hein? Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de l'Ancien Testament. Et il y a hein? Et dans l'Antiquité, le garde du corps se tenait à la droite de celui qu'il protégeait. C'est la position qui sert de bouclier. C'est la position, la droite symbolise le bouclier. Et ça symbolise le pouvoir de disposer librement de sa droite, de sa main droite, de son bras droit, eh bien pour combattre. Voyez-vous? Gloire à notre Dieu. Verset 26. Aussi mon cœur est dans la joie. Voyez-vous? Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Gloire à Dieu. Et même ma chair reposera avec espérance. Pourquoi? Parce que je voyais, verset 25, hein? Le verset 26 explique le verset 25. Parce que je vois constamment le Seigneur devant moi, parce que le Seigneur est à ma droite, c'est le Christ qui parle, mais David parle au nom du Christ, David prophétise ce que Christ va faire, la confiance du Fils, la confiance du Messie, du Fils de David. Afin que je ne sois point ébranlé. Et le résultat, mais son cœur est dans la joie. On revient encore au dimanche, à ce dimanche-là. Il anticipe sa délivrance et son cœur est dans la joie. Ah, les Sénégalais ne vont pas au livre de Dinon, là. Regardez comment on fait le lien avec le message du dimanche dernier. Ce n'était pas dans ma tête, là. Aussi, mon cœur est dans la joie. Aussi, ses conséquences, hein, en raison de cela. En raison du verset 26, du verset 25, pardon, alors mon cœur est dans la joie et ma langue est dans l'allégresse. Parce que qu'on n'aime pas prêter dans sa bière. Pas prêter là. Situation qui est pour changer. Circonstances qui est pour changer. Les liens de la mort devront se briser bientôt. Et même ma chair reposera avec espérance. Gloire à notre Dieu, frères et sœurs, même en sachant qu'il va mourir à la croix, eh bien, la joie du Fils de Dieu demeure ferme et inébranlable. Sa joie demeure imperturbable, intacte. Parce qu'il sait avec qui il en a affaire, il a affaire. Avec Dieu à ta droite, l'Église du Seigneur, eh bien, sachez que la prière, la victoire est à toi. Anticipe ta délivrance, anticipe ta victoire, car Dieu est à ta droite. Gloire à Dieu. Et le Christ était également dans la joie à cause de l'assurance qu'il avait que sa chair reposerait avec espérance. Alors, dans la Bible, l'on parle de chair, ou souvent parler de plusieurs bagages. Chaque contexte, ce contexte, ça parle dire où, de quelle chair il est question. Ici, le mot chair parle de corps physique. Hein? Ici, le mot chair fait référence au corps physique. Dans d'autres circonstances, Vous connaissez pas sa chair, vous le dites. Quand tu dis la chair est faible, mais l'esprit est disposé, et bien disposé, c'est pas de même bagarre au palais là, l'autre dit chair. L'autre dit au monde charnel, c'est pas de même bagarre là au palais. Mais ici, c'est corps physique que chair désigne. L'idée que la chair du Fils de Dieu reposerait avec espérance parle de certitude, hein, de la certitude absolue, hein, qu'il avait de livrer son corps au tombeau avec la ferme espérance qu'il ressusciterait. Hein. Chair reposerait avec espérance, traduit la certitude qu'il avait le pouvoir de livrer son corps au tombeau parce qu'il était persuadé, eh bien, qu'il ressusciterait des morts. Son corps ne verrait pas la corruption. Le reste du passage va le dire. La chair, c'est son corps. La chair, sa chair ne verrait pas la corruption. Son corps ne verrait pas. Ici, chair est synonyme de corps physique. Verset 27, car tu n'abandonnes pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permets pas que ton sein voie la corruption. Voilà, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Gloire à Dieu. Hein? L'assurance, l'espérance, la confiance du Messie repose sur une vérité fondamentale et absolue, à savoir que Dieu n'abandonnera pas. Bon, Dieu le connaît, papa le connaît, hein? Dieu le Père, que le connaît, n'a pas abandonné Namni dans le séjour des morts. L'expression séjour des morts souvent fait parfois référence à l'enfer dans la Bible. On en a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'enseignais sur les événements derniers, sur l'Apocalypse aussi, j'en ai parlé. Hein, et l'expression séjour des morts fait référence parfois à l'enfer. Nous n'avons qu'à penser à Matthieu chapitre 11, verset 3 pour s'en convaincre. Voyez-vous? Mais ici, séjour des morts est utilisé dans un sens plus général. Hein. Cela ne signifie pas l'enfer. Hein. Séjour des morts signifie ici, comme ailleurs dans l'Écriture, dans d'autres contextes, hein, séjour des morts signifie la demeure des morts. La demeure des morts. Ce n'est pas nécessairement l'enfer. Même si c'est à certaines occasions, ça signifie l'enfer. Mais ici, c'est la demeure des morts. Alors, il y a le Christ a l'assurance, hein, qu'il ne sera pas retenu par la mort. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Donc, n'invente la mort. Hein. On va dire n'invente la mort. N'engorge la mort. N'enfonce la mort. N'en demeure la mort. Voyez-vous, ce n'est pas l'enfer nécessairement, mais c'est dans l'univers de l'amour. On va le dire comme ça. Frères et sœurs. Le Christ est aussi convaincu que Dieu ne permettrait pas que son saint, c'est-à-dire lui-même, c'est un titre messianique, le saint de Dieu, le saint d'Israël. Hein? Alors, c'est un titre messianique, ça désigne encore le Messie. Parler du saint d'Israël, c'est parler du Messie d'Israël. Et il ne permettra pas que ton saint, ton fils, le Messie, ton envoyé, ton apôtre par excellence, voie la corruption. Eh bien voilà, il a passé 3 jours dans le tombeau et son corps n'a pas vu la corruption. Il savait de quoi il parlait, de toute façon, il est Dieu. Il est Dieu. La Bible dit, son corps n'a pas vu la corruption. Voilà Dieu, son corps n'a pas vu la corruption, effectivement. Tout s'est passé comme prévu. Parce que c'est Dieu qui est aux commandes. C'est Dieu qui a accompli son dessein éternel, son plan éternel. Tout, encore une fois. Moi, c'est pas de grâce, vérité. C'est pas de grâce, parole. C'est pas de grâce, grâce, nous joindre. Pour nous comprendre comment chaque sabbat, Dieu dit à propos de petit qui réalisé à la lettre. Et s'il en est ainsi du Fils de Dieu, il en sera de même pour toi. Dans le présent comme dans l'avenir. Dans le spirituel comme dans le temporel. Voilà, ces genres de passages-là nous appellent à la confiance. On n'a pas le choix. Ces appels, ces genres de passages nous appellent à l'espérance. Quand on lit Dieu qui a accompli son dessein comme ça, à la lettre, qui a accompli son plan de A à Z comme ça, on n'a qu'à penser à notre vie, à nous-mêmes. Quand Dieu dit qu'il va chorégraphier notre vie, Quand Dieu dit qu'il va tisser la relation entre nous et lui, comment rien ne peut altérer cette communion, cette relation de père-fils que Dieu a établie avec nous? Rien n'est pas capable, t'as dit, entraîner une sorte de cassure de relation, ça. Parce que bon Dieu, lui prévoit que relation pas qu'à casser. Gloire à notre Dieu. Il y a verset 28, Actes chapitre 2. C'est le Christ qui parle. Il y a c'est David qui prophétise. Et il y a ce que le Christ va dire, va vivre, va afficher comme attitude, comme comportement, comme parole, comme confiance, comme espérance. C'est David qui parle encore. Tu m'as dit, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Pierre dit, David prononce ces paroles, ça y est, mais ce n'est pas pour lui le prononcer. C'est pour le fils de David qu'il le prononce. Évidemment, ça ne veut pas dire que il y a pas ton réalité dans la vie, David. Quelquefois, non. Mais le fond de la chose, ultimement, c'est ce qu'on appelle en théologie, ultimement, le destinataire principal de toutes ces réalisations-là, c'est le Fils de Dieu. L'endroit, la personne en qui toutes ces choses sont réalisées ultimement, parfaitement, c'est dans la vie du Fils de Dieu. Mais n'empêche que David était un homme de confiance. Mais pareil, ça c'est important, c'est de la haute théologie, mais on va dire un mot là-dessus. Vous savez, ça me dédouane de prophétie Joël, là. Nous avons réalisé qu'on y est là, dans ta yotap vive là. Dans temps, le Saint-Esprit est donné là, et bien là, l'effusion de l'Esprit est en réalité là. Et puis, il y a l'autre aspect dans la prophétie qu'on va réaliser au fur et à mesure, qu'on va passer chercher le royaume millénaire, et puis qu'on va réaliser dans l'éternité bénie. Mais c'est même bagarre là ici. Il y a des choses que David dit qui se réalisent dans sa vie. Mais la vraie réalisation, la réalisation ultime va se passer dans la vie du fils de David. Et puis, il n'est pas même réalisé du tout dans la vie de David. C'est ce que Pierre va expliquer. Quand il dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, mais le corps de David a vu la corruption, lui. Mais le corps du fils de David n'a pas vu la corruption. Donc, cette partie-là de la promesse, cet aspect-là de la promesse ne concernait pas David. C'est ce que Pierre va dire tout à l'heure. Ah, c'est important, frères et sœurs. Gloire à notre Dieu. Je vous relis le verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Les sentiers de la vie. Il y a le singulier aussi qui parle du sentier de la vie. Hein? Le sentier de la vie, c'est une référence à la résurrection. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie, mais c'est que le chemin de la vie. La voie de la vie. Alors, c'est la vie même. Le sentier de la vie, c'est la vie. Et le sentier de la vie, c'est la résurrection. Tu m'as fait renaître. Tu m'as fait revivre. Hein? Le sentier de la vie, c'est le sentier vers la vie de ressuscité. Gloire à Dieu. Gloire à notre Dieu. Là, le Messie, suite à sa résurrection, le Messie serait rempli de joie et d'allégresse par la présence de Dieu le Père qui a tenu promesse à l'endroit de son Fils. Gloire à notre Dieu. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Là, David prophétise la résurrection du Fils de David. C'est ça, Pierre. C'est ce que Pierre est en train de soutenir ici. C'est ce que Pierre est en train de soutenir ici. Hein? Il parle de David, quelqu'un en qui il croyait beaucoup, que les gens à qui il s'adresse croyaient beaucoup. Alors, en parlant de David, mais les gens. Les gens qui l'écoutent vont réaliser à quel point, eh bien, Jésus est réellement le Messie. En citant David, hein, il fait tout ce qu'il était capable de faire sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu pour arriver à convaincre ces gens que Jésus de Nazareth est bien le Messie qu'ils ont livré, qu'ils ont rejeté et livré aux Romains pour mourir, frères et sœurs. Verset 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. On est là, mais on ne va pas perdre là. Il fait exposer tout ça, David dit, de David. Ou bien, apparemment, de David. Et on va expliquer que tout ça, David dit là, ce n'est pas de tête qu'il t'a parlé, c'est du fils de David qu'il t'a parlé. OK? Et au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Hein? Ça, c'est important. Le sépulcre, le tombeau de David existe encore comme preuve tangible que David n'est pas le sujet du psaume 16. En tout cas, il n'est pas le sujet ultime du psaume 16. C'est ça qui est fait là, oui. Il dit au psaume 16, ne parle pas de David ultimement. David parlait comme prophète. C'est ce que Pierre soutient au verset 30. Comme il était prophète, verset 30, acte 2. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, verset 31, acte chapitre 2. Pour ceux qui vont nous écouter en reprise, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Moi, je me suis arrivé là. Verset, ça, vous avez expliqué déjà, oui, là, 30 à 31, là. Vous avez parlé de oui, là, par anticipation. Hein. Ben, c'est comme on a toujours dit un mot sur eux, mais vous avez choisi, anticipé, pour être capable de ne pas perdre. Vous hein? Êtes capable rapidement montrer où de côté nous aller, dans quelle direction étude la pour aller. Hein? Voyez-vous, donc, mais tout est clair, il me semble. Hein? David parlait comme prophète, on l'a dit ensemble, je l'ai dit tout à l'heure. Il était prophète à 16 heures. Dans ces temps libres que Dieu lui donnait, il était prophète de l'Éternel. Il était roi. Hein? Et il ne parlait pas de lui-même, il parlait du Fils de Dieu. Pourquoi il faisait ça? Mais parce que David, il était en contact avec bon Dieu, il était en relation personnelle et intime avec Dieu. Dieu lui avait promis que un de ses descendants hein, serait assis hein, et assis sur son trône. Et puis Dieu balance en parole concernant ce qu'il adviendra de ce descendant-là. Et cette parole, c'est le psaume 16. C'est les paroles du psaume 16. Il n'y a pas juste cela comme parole que Dieu donne à propos de ce descendant-là. Mais Dieu a permis à David eh bien, de voir ces choses avant même qu'elles arrivent. Qu'elles arrivent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et promesse ça, on va avoir dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 11b à 16. Mais promesse ça. Mais promesse ça. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, mais promesse avec serment. 2 Samuel 7, verset 11b à 16. Mais promesse là, David te connaît, hein, qui fait les bails prophétie ça, sous descendant ça. Et l'Éternel t'annonce, je lis 2 Samuel 7, verset 11b à 16. Si c'est la nappe séparée, c'est tout à fait correct. OK? Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours, c'est Dieu qui parle, hein, c'est le prophète de l'Éternel qui parle à David, des promesses de Dieu, que Dieu lui fait par serment. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, gloire à Dieu, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles. Voici à quelle promesse Pierre fait référence. Quand il dit au verset 31, au verset 30, que David prophétise, ça le prophétisait, hein, parce que bon Dieu te promet, lui, par serment, que le t'a fait, ils ont descendant, lui, Chita, sous chaise royale, sous chaise David comme moi. Donc, Pierre t'a fait référence à 2 Samuel 7, verset 11b à 16, comme promesse faite par Dieu sous serment. J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, J'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Et voilà. Je vous fais grâce du reste. Je vous fais grâce du reste. Je pourrais peut-être juste rajouter, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. J'ai sauté quelques versets pour vous lire le dernier verset de 1 Samuel, chapitre 2 Samuel, chapitre 11, chapitre 7, verset 11b à 16. Alors voilà, verset 31 maintenant. Pierre dit, c'est la résurrection du Christ que David a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Pas oublier le contexte là. C'est le Saint-Esprit qui vient d'être donné par Dieu selon ses promesses faites à la maison d'Israël. Cet esprit est donné comme preuve visible du don de l'Esprit. Ceux qui l'ont reçu, l'Église naissante, les 120 hommes et femmes de Dieu, se sont mis à parler en diverses langues. Certaines personnes mal intentionnées les ont accusés de gens qui sont sous, qui sont ivres, qui parlent sous l'effet de l'alcool. Pierre s'est levé pour leur dire, écoutez, vous trompez, vous faites fausse route en disant que ces gens-là parlent sous l'effet de l'alcool. D'abord, dans leur lien, on ne passe pas sous dans les Sahara, habituellement, d'après notre tradition, on ne passe pas sous dans les Sahara, à moins d'une exception rare. Et puis, il dit qu'on est là, bon, expliquez-nous ça qui passe. Et puis, il commence à expliquer au ça qui passe, à savoir que Jésus, lui, ces petits bon Dieu, Jésus de Nazareth, et ils l'ont livré à la mort, ils l'ont rejeté, et l'ont livré à la mort, mais il n'est pas arrêté mourir, il n'est pas arrêté dans ton bois, il est ressuscité. Donc, il fait d'une pierre plusieurs coups là, il fait d'une pierre plusieurs coups, et maintenant, en disant que le Christ est mort et qu'il est ressuscité, l'aller sous propre terrain, l'aller puiser à Douman, dans ça, il y a un commun avec eux, qui c'est la Bible de l'Ancien Testament, la parole de Dieu, il tirait vers Somme 16 là, pour lui dire que ça, il dit, c'est pas lui qui inventait, et que c'est la parole de Dieu qui balise, ça le dit. Et parce que Monsayo, qui rejetait le Christ, en tout cas, ça qu'il a eu, captant des pierres, yo gombaga yo konnen, yo kwen nan bon Dieu, yo kwen nan l'Ancien Testament, yo kwen nan Moïse, yo kwen nan David, yo kwen nan Abraham, moun sa yo. Yo gon problème avec le Christ, le Fils de Dieu, le Messie de Dieu, mais pas bon problème avec bon Dieu lui-même, entre guillemets, hein, cela dit. Alors, c'est tout à fait intelligent que le Saint-Esprit de Dieu anime Pierre, hein, inspire Pierre, pour que Pierre trouve argument de la résurrection, d'abord de la messianité du Fils de Dieu, mais de sa résurrection sous propre terrain, mon cap côté lio. David cher, yo même. On ne peut pas toucher David, on ne peut pas toucher Moïse, on ne peut pas toucher Abraham. Alors, c'est tout à fait normal, il dit que, mais ça, David dit, de Messie ça, non, dit pas Messie. David lui-même a prophétisé qu'il ressusciterait. Voyez-vous, vous voulez nous comprendre, démarche là, peut-être que c'est déjà clair, mais, et en tout cas, voilà. L'aller chercher Bathieu sur propre terrain, encore une fois. Hein? Et voilà. Et c'est pourquoi vous le verrez. Autant de monde va le convertir, va l'accepter Christ comme sauveur personnel. Il va le convaincre, la démarche, la stratégie du Saint-Esprit a fonctionné. La stratégie de l'Esprit a fonctionné. Hein? C'est-à-dire la stratégie consiste à trouver une parole que qu'on connaît déjà et juste expliquer. Parce que leurs yeux sont encore voilés. Juste montrer que parole, ça le compte déjà. Il n'y a pas qu'à dire David, pas dit là. Juste montrer qu'elle s'applique, cette parole-là, à Christ. Pour l'établir, la messianité du Christ sous trois aspects. Que l'Esprit est donné en lui, qu'il est mort selon le dessein éternel de Dieu, le Père, et qu'il est ressuscité selon le dessein éternel de Dieu, le Père. Donc, vous avez trois éléments qui établissent sa messianité. Ah, c'est important, hein? Et je crois qu'on est mieux pour passer au verset 32, là. J'ai comme, allez, on va me dire un petit mot sur verset 31 encore, peut-être. C'est la résurrection du Christ, verset 31, chapitre 2. Pierre dit, c'est la résurrection du Christ que David, t'es ouais, t'es ouais, d'avance, t'es prophétisé, t'es annoncé. L'aile t'est dit, il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Ce n'est pas de David que David t'a parlé, parce que le corps de David, quant à lui, a vu la corruption. Notez que ça fait un deuxième argument par rapport à l'aile t'est dit que David est mort. Il a au verset 20, 29, quand Pierre t'est dit David est mort. Il a été enseveli et son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Il existe encore aujourd'hui parmi nous, hein? C'est parmi Pierre et mon état parlé avec Yoa. Sépulcre, tombeau de David, il était Kawel. Il était encore là. Donc c'est pour dire que David est bien mort lui. Verset 32, avant que je vous quitte, si Dieu le veut, c'est ce Jésus. Voilà le coup de massue final. Voilà le dernier clou à leur cercueil. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, gloire à Dieu. Nous en sommes tous témoins. Verset 32, Actes chapitre 2. Élevé par la droite de Dieu le Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et c'est lui-même qui baille sa nouée qui vient là. Et il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez. Moi, j'ajouterais, maintenant. Quelle pédagogie, frères et sœurs, quel enseignement, quelle habileté de l'Esprit de Dieu, quelle méthode d'enseignement. Il prend au loin pour le mener au pré, si on voulait. S'ils veulent se laisser convaincre de péché, de justice et de jugement, à eux de décider. Mais l'enseignement est clair. L'enseignement est clair. Car David n'est point monté au ciel. Et c'est 34, Actes chapitre 2. Je n'ai pas même besoin de commenter pour vous-même. Vous remarquez, je n'ai pas même commenté. Je lis alors seulement. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Là, vous l'aurez compris, il cite le psaume 110 cette fois-ci. Il vient de citer le psaume 16. Et là, il cite le psaume 110. Mon deuxième aspect de la chose. Là, où ça fait là? Mais ça l'a fait là. Les finances montrer en quelle qualité que Jésus a été capable de répondre l'Esprit. Il l'a fait en qualité de Messie de Dieu, de roi de Dieu, mort et ressuscité. Et pour le montrer, il n'y a pas que ça l'a fait. Il a bien pour le juger tout. Le psaume 110 que le cité là, c'est pour le jugement, lui. C'est pour le jugement. Donc, il y a jugement tout. Que toute la maison d'Israël sache, donc, avec certitude, verset 36, acte 2, que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Vous aurez compris que le verset 36, c'est la vérité que Pierre voulait proclamer. Là, il t'a fait tout râler, mais il t'a fait là. C'est le verset 26 qu'il voulait proclamer. La conclusion, c'est ça le dévelé, dit, c'est ça la vérité. Ça qui est plus important dans la vie, il dit à la fin. Parfois au début, hein. Mais dans l'homme de la Bible, c'est comme ça, hein. Ça qui est plus important, dit, soit au début, soit à la fin, dans la vie en général. Ni l'autre pas là, au monde, hein. Ça qui est plus important, dit, soit au tout début, ou tout à la fin. C'est ça le devine dit. Que toute la maison d'Israël sache, donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est ça le devine dit, mais il a argumenté avant l'idylle. Voilà, je finis avec vous pour asseoir eux là. Il vous reste 3 minutes. Je vais seulement fermer quoi? Et enregistrement. Et puis, je vais avoir 3 minutes là pour si vous voulez participer, vous participez. Si vous sentez mon demande, est sous cœur ou à mettre les. Moi-même, ça, je suis capable de dire, à titre d'application, pour observer mon Dieu, tout ça, il dit, c'est vérité. Parole, c'est oui, amen. Pas gagné, dit dans salle, pas gagné, il dit, pour que on yote à la dame, pas réalisé. Dans la vie où? Voyez-vous? Et que ce soit dans la vie spirituelle ou, dans la vie personnelle ou, dans la vie ministérielle ou, dans la vie éternelle ou, pas gagné, dit prophète. Il y a Jean Dali, il y a Plani, c'est l'Ikmet, QL nan meni, Chodiel nan meni, c'est tant pour tant ni. Ça m'a dit où? À titre d'application. Alors voilà, laissez-moi